Épisode 143, la France entre en guerre contre la fast fashion. Salut à toutes et à tous, salut Ingrid.
Salut Hugo, comment ça va aujourd'hui?
Ah ça va, comme je te disais là je viens de terminer mon café mais la caféine n'a pas encore fait effet, donc le démarrage risque d'être un peu lent, mais bon j'espère que voilà, au fur et à mesure de l'épisode ça va repartir. Bon. Et toi, comment ça va?
Moi ça va, ben, comme tu le sais il y a un décalage horaire donc je suis pas du tout au même stade que toi, je suis plutôt en train de digérer mon déjeuner. Donc, ça me va si on y va doucement et qu'on aborde le sujet d'aujourd'hui tranquillement, sans se prendre la tête. Et d'ailleurs, c'est un sujet assez sympa, je trouve. Pas trop technique, un petit peu quand même.
Ouais, je pense qu'on va avoir pas mal de vocabulaire utile, du vocabulaire du quotidien, qui concerne la mode, parce que, comme vous l'avez entendu avec le titre, on va parler de fast fashion. Alors, il va y avoir pas mal d'anglicismes dans cet épisode, désolé, mais c'est vrai que dans ce domaine, d'ailleurs comme dans d'autres domaines assez nombreux, on utilise de plus en plus les termes anglais. C'est peut-être une manière pour nous de prendre nos distances avec ce phénomène, mais on va voir qu'il y a un peu d'hypocrisie par rapport à ça, parce qu'en France, on est des gros consommateurs de fast fashion, mais on a tendance à critiquer cette pratique assez publiquement.
Alors, qu'est-ce que c'est comme pratique déjà? La fast fashion, bon, je pense que tout le monde, tous ceux qui nous entendent, savent de quoi on parle, surtout que c'est vrai que c'est un terme international qu'on a gardé comme ça en français. C'est un secteur de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le renouvellement très rapide des vêtements qui sont proposés à la vente avec plein de saisons. Parfois, c'est même pas vraiment des saisons, c'est juste qu'il y a continuellement des nouvelles collections. Et c'est vrai qu'on voulait en parler aujourd'hui particulièrement pour deux raisons. Alors déjà parce que effectivement, comme on le dit dans le titre, la France entre en guerre contre la fast fashion. On va vous expliquer pourquoi. Mais on a aussi choisi aujourd'hui comme jour particulier parce que aujourd'hui, le 24 avril, donc au moment où vous écoutez ce podcast normalement, c'est le Fashion Revolution Day, donc encore un anglicisme, soit la journée internationale et même la semaine pour la promotion de la mode responsable et donc contre la fast fashion.
Exactement. Alors, les enseignes de fast fashion les plus connues, en tout cas en France, mais c'est des entreprises qui sont présentes dans le monde entier, donc je suis à peu près sûr que vous en avez déjà entendu parler. Ce sont le géant suédois H&M, donc oui, en France, on ne dit pas H&M, mais H&M, l'entreprise espagnole Inditex, donc celle-là, vous ne la connaissez peut-être pas, mais vous connaissez les marques qu'elle possède, notamment la marque Zara, mais aussi la marque Mango. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie d'acteurs qui apparaît sur le marché, enfin, ça fait déjà quelques années. Mais maintenant, on commence à parler d'ultra fast fashion avec des entreprises comme Shein, une entreprise chinoise.
Mm-hmm. Qui est un site en ligne qui fonctionne apparemment très bien en France. Et donc, on trouve ça assez intéressant parce que, ben justement, nous, on se demandait est-ce que les Français sont consommateurs de cette fast fashion ? Et apparemment, oui, puisque Shein est arrivé en tête des ventes de mode en ligne en France en 2022. Bon, c'est le dernier chiffre qu'on a trouvé, mais le géant chinois a enregistré des ventes d'une valeur de 963 millions d'euros. Bon, c'est un gros chiffre, mais en gros, tous les chiffres montrent que toutes les enseignes type H&M, Zara et aussi les enseignes d'ultra fast fashion comme Shein fonctionnent très bien en France. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu. Donc, on a décidé, ou en tout cas les politiques ont décidé de répliquer.
Oui, ils ont décidé de voter une loi pour adopter des actions concrètes afin de lutter d'être en guerre contre ces entreprises de fast fashion. Cette loi, elle a été votée il y a environ un mois et elle a trois mesures phares, trois grandes mesures pour lutter concrètement contre les entreprises de fast fashion. C'est une loi qui a été adoptée avec une grande majorité, il n'y a pas vraiment d'opposition, donc on peut dire qu'elle fait l'unanimité parmi les partis politiques français, mais parfois pour des raisons un peu différentes. On en reparlera plus tard.
Ouais, donc on va creuser ce sujet dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc ça, c'était plutôt une introduction où on vous a un peu balayé le sujet pour que vous compreniez de quoi on va parler. Et maintenant, on va y aller à fond. C'est parti.
Alors, pour commencer, on va essayer de mieux comprendre ce qu'est l'ultra fast fashion. La date du 24 avril qu'on a choisie pour cette journée internationale de la mode responsable, elle n'a pas été choisie au hasard. En fait, c'est un jour de commémoration. On commémore un drame qui a eu lieu au Bangladesh le 24 avril 2013. C'est le célèbre effondrement de l'immeuble du Rana Plaza. Alors, le Rana Plaza, c'était un immeuble dans lequel plusieurs enseignes comme Mango ou Primark produisaient une partie de leurs vêtements. Et ce 24 avril, le bâtiment s'est effondré, il s'est écroulé, ce qui a fait plus de 1000 morts et environ 2500 personnes qui ont été rescapées. Ces personnes, évidemment, c'était des ouvriers qui travaillaient à la production de ces vêtements et on en a beaucoup discuté ensuite au niveau mondial et ça a attiré l'attention du grand public sur les conditions de production des vêtements qu'ils achètent.
Oui, parce que à l'époque, on avait su qu'il y avait eu des consignes d'évacuation qui avaient été données la veille, donc le jour d'avant, après l'apparition de fissures. Des fissures, c'est quand le mur est cassé, qu'on voit que le mur pourrait se fendre, se couper en deux. Et les responsables de ces usines avaient su cela, mais ils avaient décidé de l'ignorer. Pourquoi ? Parce que le profit est beaucoup plus important que la vie de ces ouvriers, donc ils avaient décidé de prendre le risque quand même. Et c'est vrai que ensuite, il y avait eu beaucoup d'émotions dans le monde entier et notamment les entreprises qui embauchent ces ouvriers, qui font travailler ces personnes dans ces pays, avaient été beaucoup critiquées. Il y avait eu un mouvement un petit peu déjà pour s'opposer à cette industrie. Et à l'époque, c'était plutôt l'idée que c'était une industrie qui était très mauvaise pour les droits humains, qui pour pouvoir produire de façon très peu coûteuse, ne faisait pas du tout attention aux conditions de travail de leurs ouvriers.
Oui, et c'est vrai que, je ne sais pas si tu t'en souviens et si c'était le cas pour toi, mais avant ça, moi, souvent pendant mes cours d'anglais, au lycée et puis après en prépa, on parlait des conditions de travail dans les sweatshops en Asie. Donc, c'était les usines dans lesquelles Nike produisait ses baskets et ses vêtements. Je me souviens qu'on en parlait assez souvent au début des années 2000, mais ça concernait principalement les équipementiers sportifs, donc Nike, Adidas, etc. Toutes ces entreprises qui produisaient, par exemple, au Vietnam. Mais à partir des années 2010, les enseignes qui étaient dans le viseur, autrement dit les enseignes qui étaient ciblées, qui étaient critiquées, c'était plutôt les enseignes de la fast fashion comme H&M, Primark, etc.
Oui, c'est vrai qu'avant, on entendait beaucoup, par exemple, que les baskets Nike étaient fabriquées par des pauvres enfants en Asie, mais sur H&M ou Zara, Il n'y avait pas du tout de discours critique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ben, pour avoir ces prix qui défient toute concurrence, hein, des t-shirts à 5 euros ou des robes à 10 euros, il faut absolument avoir des conditions de travail médiocres avec beaucoup d'heures de travail, avec une cadence qui ne permet pas de se reposer, pas de respect de la santé des ouvriers, etc. Alors depuis, ces marques-là ont un peu fait ce qu'on appelle du greenwashing. Hein, vous savez, il y a H&M qui, par exemple, propose de recycler des vêtements ou ils nous proposent des collections vertes, des choses comme ça, pour montrer qu'ils font leur part pour réduire les risques. Mais c'est vrai que, personnellement, depuis cette époque, j'ai toujours gardé un œil très mauvais sur ces marques-là.
Oui, c'est vrai. Et comme tu le soulignais, avant, la principale critique concernait les conditions de travail et les salaires dans ces pays-là. Mais depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, on parle surtout de l'impact environnemental de la fast fashion. Et c'est ça qui concentre la plupart des critiques.
Oui, c'est vrai. Et alors là, c'est un avis très personnel. Mais moi, je pense que le fait de se concentrer sur l'impact environnemental, ça rend la critique internationale et ça rend les mesures de surveillance plus faciles parce que on peut facilement critiquer l'impact environnemental de la production de vêtements, alors que depuis l'Europe, c'est plus difficile d'aller imposer des conditions de travail meilleures pour des ouvriers à l'autre bout du monde. Ou alors, il faudrait carrément interdire l'exportation, mais ça, c'est un peu contre tout notre système de mondialisation. Donc maintenant, on a un bon argument pour lutter contre ces entreprises, c'est l'écologie.
Oui, et de manière peut-être un peu plus cynique, on peut imaginer que les gens se sentent plus concernés par ces problèmes écologiques que par les conditions de travail des ouvriers au Vietnam ou dans d'autres pays d'Asie. On peut avoir cette attitude de dire « bon, bah, c'est pas mon problème, si les gens acceptent de travailler pour 2 dollars de l'heure dans ces pays-là, moi je vais quand même continuer d'acheter mes baskets. » Mais si ma consommation contribue directement au réchauffement climatique, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur ma vie. Donc, bon, c'est vrai que de manière générale, les gens ont un peu de mal aussi à imaginer les conséquences du réchauffement climatique, même quand ils les ont sous les yeux. Mais voilà, de manière plus cynique, peut-être que les gens se sentent plus concernés par les problèmes écologiques que par les conditions de travail des ouvriers de ces pays.
Et surtout que maintenant, on ne parle plus seulement, comme tu le disais en introduction, des entreprises de fast fashion classique, mais on a des nouveaux acteurs comme le chinois Shein qui font de l'ultra fast fashion. Et c'est vrai que là, c'est vraiment flagrant la cadence avec laquelle ils produisent des vêtements. La cadence, c'est la vitesse, le rythme. On est vraiment sur une accélération de la production parce que Shein, c'est 7500 modèles par jour. Alors que Zara, par exemple, c'est une centaine de modèles par semaine. Donc, on est vraiment sur des chiffres de dingue. On a aussi, je pense que tous ceux qui ont déjà vu des produits Shein, même que ce soit seulement dans des vidéos sur Internet, on sait tous que c'est de la très mauvaise qualité, que c'est des produits qui sont faits pour être renouvelés et jetés tout le temps. Donc, c'est beaucoup plus flagrant. Et maintenant, c'est plutôt ce modèle-là qui est, entre guillemets, l'ennemi de l'écologie et qui est critiqué plus que les anciennes classiques qui étaient responsables de l'effondrement du Rana Plaza.
Oui, parce qu'il y a la question, comme tu l'as dit, du nombre de nouveaux produits, de nouveaux modèles. Parce que déjà, au moment de la fast fashion, je me souviens qu'on trouvait ça incroyable et assez inquiétant que Zara soit capable de lancer aussi rapidement de nouvelles collections. Mais là, on est passé à une échelle complètement différente. Et ce qui change aussi, c'est la livraison. Parce que les enseignes de fast fashion étaient principalement vendues en boutique, alors que maintenant, chaque client se fait livrer à domicile. Donc là, au niveau de l'impact environnemental, c'est facile d'imaginer à quel point c'est pire que la fast fashion.
Et alors, pour donner quelques indications supplémentaires sur ce modèle d'entreprise, Shein, en fait, qui est pratiquement le seul, hein, mais il va probablement y avoir avec le temps, si on ne fait rien, de plus en plus d'acteurs similaires. Mais donc Shein, son modèle repose sur un algorithme. Et c'est cet algorithme qui lui permet de produire très rapidement des nouveaux modèles, puisque en fait, il va capter, il va récupérer les données des utilisateurs sur Internet, pas que sur son propre site, mais aussi sur d'autres sites. Et il va pouvoir identifier quelles sont les nouveautés que les gens recherchent. Il va pouvoir aussi identifier très vite quels sont les modèles qui fonctionnent. Dès qu'un modèle ne fonctionne pas vraiment, ils le sortent de la vente et ils en mettent des nouveaux. Et ça, c'est vraiment la base du modèle. Ça, en plus d'avoir des ouvriers très très proches, puisque la maison mère est en Chine et juste à côté, il y a des énormes usines à Gangsu. J'espère que je le dis correctement. Voilà, c'est un endroit où il y a des milliers et des milliers d'ouvriers du textile qui peuvent produire des vêtements très rapides.
Oui, c'est vrai que ce modèle est très critiqué. Donc, en plus de ce que tu as déjà cité, il y a aussi la question de la collecte de données. Comment fait Shein pour capter toutes ces nouvelles tendances et ce que les internautes recherchent? Donc ça pose question par rapport au respect de la confidentialité, de la vie privée. On sait qu'en Chine, les lois sont beaucoup moins restrictives et moins protectrices qu'en Europe, par exemple. Il y a aussi des critiques qui concernent le plagiat. Shein est régulièrement accusé de plagier, de copier des produits de grandes marques, voire même de marques de fast fashion, comme Uniqlo, l'enseigne japonaise, ou H&M. Ça, c'est une critique qui était souvent faite à Zara aussi à l'époque. Zara qui copiait les produits des défilés, des grandes maisons de haute couture et qui en faisait des produits pas chers, accessibles. Donc maintenant, c'est plutôt Shein qui est accusé de plagiat. C'est assez difficile de contrôler et de suivre ça quand on sait, comme tu l'as dit, qu'ils peuvent créer quasiment 7500 nouveaux produits par jour.
De toute façon, on pourrait continuer comme ça. La liste des critiques qui sont faites à l'égard de Shein est énorme, entre la sécurité, les produits qui sont mis dans les vêtements, les livraisons qui se font par avion, etc., etc. Je pense que on est sur une entreprise qui est quasi indéfendable, à part si on défend simplement sa liberté, mais sinon il y a tellement de choses qui vont pas. En France, en tout cas, il n'y a pas de débat sur le fait qu'en soi, c'est une entreprise qui est très, très critiquable.
Oui, et on est encore moins tolérant vis-à-vis de cette entreprise parce que contrairement à H&M ou Zara, elle ne crée pas d'emplois en France vu qu'elle n'a pas de, à ma connaissance, elle n'a pas de boutique physique. Donc, tous les emplois sont en Chine pour la production, ensuite la livraison. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de lobby qui puisse défendre Shein en France.
C'est vrai que de temps en temps, je crois qu'ils ont fait des pop-up stores, encore un anglicisme qu'on utilise en français, hein, ces espèces de points de vente éphémères. Et je me rappelle qu'en France, ça avait beaucoup, beaucoup fonctionné. Et certaines personnes étaient choquées de penser « Mais pourquoi les Français vont autant faire la queue pour cette entreprise qui est pourtant tellement critiquable ?» Et c'est un paradoxe que, justement, au nom de l'écologie, les politiques essayent de corriger en mettant des limites à cette entreprise.
Bon, et maintenant, peut-être qu'on pourrait donner deux ou trois chiffres juste pour être conscient de l'échelle du problème. Alors, par exemple, l'industrie textile au niveau mondial, c'est environ 10% des gaz à effet de serre. Donc, c'est une des industries les plus polluantes au niveau mondial.
Ouais, pour donner un autre chiffre, par exemple, il faut 7500 litres d'eau pour fabriquer un jean. C'est l'équivalent de l'eau bue par un être humain pendant 7 ans.
Oui, et peut-être un dernier chiffre qui concerne plutôt la consommation en France. Il faut savoir qu'en France, même si on a ces maisons de haute couture et toutes ces belles marques, eh bien 95% des vêtements qui sont vendus en France sont des vêtements importés, donc qui ont été produits dans d'autres pays.
Alors, comment on va réagir face à ça ?
Alors, pour lutter contre la fast fashion, et en particulier l'ultra fast fashion en France, pour essayer de décourager les Français d'acheter autant de vêtements de mauvaise qualité produits à l'étranger, les politiciens français ont décidé de voter une loi, et cette loi a été adoptée à une grande majorité. Alors, elle est composée de trois mesures. Peut-être que tu peux nous parler de la première mesure, Ingrid ?
Alors, la toute première mesure, déjà, elle consiste tout simplement à donner un cadre et à obliger les marques d'ultra fast fashion à mettre un message sur leur site pour, en fait, prévenir de l'impact écologique qu'elles peuvent avoir. Alors, quand je dis donner un cadre, c'est-à-dire que, ben, forcément, quand on fait une loi, il faut définir qui est concerné par cette loi. Et donc, c'est pour ça qu'en France, il va être introduit dans le code de l'environnement une définition de la pratique commerciale de la fast fashion. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas exactement quel va être le seuil, mais il va y avoir un seuil qui va définir que si on produit tant de nouveaux vêtements, de nouveaux modèles par jour, par mois, on rentre dans la catégorie de fast fashion. Et si on rentre dans cette catégorie, on va devoir mettre sur le site, au moment de terminer l'achat pour les clients, un message qui dise « attention, ce produit est nocif pour l'environnement, etc. » C'est un peu le même principe que ce qu'on a déjà, par exemple, sur les paquets de cigarettes ou sur les bouteilles d'alcool. Voilà, c'est des produits qui sont mauvais pour la santé, en l'occurrence, et qui sont forcément vendus avec un message de prévention. Eh bien là, ce serait la même chose pour les entreprises comme Shein qui dépassent des seuils de production. Alors apparemment, les entreprises type Zara ne seraient pas concernées, mais bon, ça reste à voir, puisque la loi, elle a été acceptée dans sa première version, mais il faut encore beaucoup d'étapes pour qu'il y ait tous les petits détails qui soient proposés et validés.
Ouais, et ils veulent aussi ajouter l'éco-score, non ? Que l'éco-score soit mentionné sur le site. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Je l'ai vu déjà sur des produits alimentaires en France. Donc, il y a le Nutri-Score qui nous informe sur la qualité nutritionnelle d'un aliment. Mais il y a aussi son éco-score qui, là, reflète son impact environnemental, donc plutôt au niveau de la production. Je trouve que c'est un indicateur plutôt clair. Donc, c'est noté de A à F, il me semble. Et quand on achète quelque chose, bah, si on a le choix entre un produit avec un score de A ou un autre avec un éco-score de C, bah, on va plutôt acheter l'éco-score de A, en tout cas si le prix est le même. Ça, c'est vraiment le genre d'information, le genre d'indicateur qui est clair, facile à comprendre. Donc, ça peut être une bonne idée de l'ajouter dans le secteur textile.
Ça existe déjà sur les frigos, l'électroménager, les choses comme ça, c'est ça ?
Ouais, aussi sur tout l'électroménager, effectivement. Il y a un éco-score qui concerne la production de ces équipements. Et là, ça va être mis en place normalement pour les vêtements aussi. Et puis, il y a une deuxième mesure qui, là, est moins symbolique, mais qui va plutôt avoir un impact direct au niveau économique, c'est un malus écologique. Malus, c'est le contraire de bonus. Concrètement, ça veut dire qu'il va y avoir une taxe supplémentaire sur les produits de fast fashion. Et cette taxe va pouvoir aller jusqu'à 50% du prix. Ça va être progressif, elle va augmenter au fur et à mesure des années. Mais concrètement, ça veut dire qu'un pull qui est vendu 8 euros, eh bien, il sera taxé à 4 euros.
Maximum. Non, on ne sait pas encore exactement, mais ça va être progressif et ça dépendra à quel point le produit est mauvais. Mais donc, effectivement, ça peut augmenter assez vite pour ces produits-là qui ont comme super avantage d'être peu chers maintenant. Donc, ça risque de faire envoler les prix. Et sinon, la troisième mesure, donc, c'est l'interdiction de la publicité. Donc, à partir du 1er janvier 2025, la publicité pour les produits de la mode type fast fashion devrait être interdite. Apparemment, ça a déjà été fait pour les énergies fossiles. Donc, il y a déjà une loi qui existe pour d'autres produits. Donc, en fait, ce sera la même chose pour ces produits-là. Et il y aura l'interdiction de la promotion de ces entreprises, notamment pour les influenceurs. Donc les influenceurs, c'est les ambassadeurs principaux de ces marques-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ?
Concrètement, ça veut dire que moi, je ne vais pas pouvoir faire de publicité pour Shein sur la chaîne YouTube ou même dans le podcast. Bon, ce n'était pas prévu. Ils ne m'ont jamais contacté. Je ne sais pas si peut-être qu'ils ne me considèrent pas comme un influenceur ou en tout cas, je n'ai pas la bonne image. Je plaisante, mais en fait, ça fait vraiment partie du business model de ces entreprises. Shein a été une des premières à faire reposer son marketing ou une grande partie de son marketing sur les influenceurs, à la fois sur les gros influenceurs avec des millions d'abonnés, mais aussi sur les plus petits influenceurs en leur donnant des produits gratuits, des codes de promotion, etc. Et c'est principalement ces influenceurs qui font la promotion des produits Shein et qui leur donnent une telle visibilité sur les réseaux sociaux. Donc ça, en France, quand cette loi sera définitivement promulguée, eh bien, ce ne sera plus possible. Ou alors, il faudra être prêt à payer une grosse amende.
Donc voilà, c'est ça, concrètement, les trois mesures. Elles sont simples, elles sont précises, mais elles sont quand même assez importantes et inédites. C'est la première fois qu'il y a un pays qui met en place ce genre de loi, donc elles risquent d'avoir un gros impact quand même. Alors, comment ça réagit en France maintenant ? Ça va être notre dernière partie. On va voir quelles sont les réactions face à ces mesures.
Alors, comme on le disait, cette loi n'a pas été polémique en France pour une fois. D'habitude, on vous dit toujours que cette loi a suscité la polémique. Mais là, ici, en tout cas, à l'Assemblée, elle a plutôt fait l'unanimité. Globalement, tous les députés, ou en tout cas tous les partis, sont d'accord pour dire que l'ultra fast fashion est un désastre écologique. Mais du côté de la droite, on insiste aussi sur les raisons économiques parce qu'on considère que les entreprises comme Shein représentent une concurrence déloyale, donc une concurrence injuste vis-à-vis des entreprises implantées en France et plus largement en Europe. Et puis, comme je l'avais dit aussi, ces entreprises ne créent pas ni de richesses ni d'emplois dans l'Hexagone. Donc, on est d'accord pour dire que ce serait mieux de les limiter au maximum.
Alors, par contre, il y a quand même quelques personnes qui sont opposées à cette loi. Globalement, ce sont les personnes qui sont les plus pauvres, c'est-à-dire que en fait, ces produits sont surtout consommés par des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et par exemple, il y a un sondage qui montrait que parmi les Français qui gagnent moins de 1500 euros, donc des Français qui sont assez pauvres, 63% étaient contre le malus parce qu'ils avaient peur que ce soit répercuté sur les prix, donc que finalement, ils n'aient plus accès à une mode pas chère, avec cette idée parfois du droit à la mode, comme si c'était un droit qui était très important et que peu importe son niveau de revenu, il est très important de pouvoir s'acheter régulièrement des vêtements. Voilà, c'est une idée parfois qui est un petit peu diffusée.
Ah oui, c'est vrai que dans un pays comme la France, où la mode a une telle importance, on pourrait presque considérer que être à la mode, ça fait partie des droits fondamentaux. Bon, je dis ça avec un peu d'ironie, mais c'est vrai que ces entreprises comme Shein, elles ont donné la possibilité aux personnes qui ont des revenus modestes de pouvoir s'habiller, d'être à la mode. Et voilà, de se sentir mieux tout simplement parce qu'elles ont des vêtements qu'elles apprécient. Donc elles ont permis de démocratiser la mode. Et je sais que même là où vit mon père, dans un tout petit village, les petites filles là-bas, où en général les familles n'ont pas beaucoup d'argent, les petites filles commandent sur Shein et elles ont des cartons entiers qui arrivent avec plein de produits Shein. Une ou deux fois par mois, elles se réunissent avec toutes leurs copines et voilà, elles sont super contentes de pouvoir avoir des vêtements qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un cercle vicieux, mais d'un autre côté, je comprends cet argument en faveur des personnes qui ont des revenus modestes.
C'est vrai que avant le début de la fast fashion, la mode s'était réservée aux plus riches et c'était des produits de luxe. Mais maintenant qu'on a eu cette habitude de voir certains prix très bas pour les vêtements, pour les chaussures, pour les accessoires, forcément, on est biaisé maintenant. C'est-à-dire que on a un biais qui fait que on croit que les vêtements sont censés coûter si peu cher, si bien que maintenant, la majorité des Français trouvent que les vêtements sont trop chers, que c'est hors de prix de s'habiller. Alors que bon, peut-être en fait, c'est l'idée est fausse, c'est que on devrait pouvoir changer de vêtements tous les ans, alors qu'avant, les gens reprisaient leurs vêtements, reprisaient, recousaient, ils raccommodaient. C'est plein de mots qui sont tous synonymes pour dire la même chose et qu'on n'utilise plus du tout. À l'époque, c'était des mots qui étaient hyper courants, mais plus maintenant. Et donc voilà, ça, c'est les critiques que les plus pauvres, que ce soit les consommateurs ou même les petits influenceurs, ceux qui font que ça, en fait, c'est leur métier de recevoir des vêtements et de faire des présentations sur les réseaux sociaux de ce qu'ils ont reçu. Ces personnes-là vont souffrir de la nouvelle loi et donc ce serait injuste.
Oui, et puis il y a ce concept très intéressant d'obsolescence émotionnelle. On parle souvent pour les produits comme les téléphones, les ordinateurs, etc., les produits avec des nouvelles technologies, on parle d'obsolescence programmée, que ces produits sont programmés pour tomber en panne à un certain moment, mais les vêtements de l'ultra fast fashion ont cette obsolescence émotionnelle où en fait, au bout d'un mois, le produit qu'on a acheté n'a plus aucune valeur parce qu'il est déjà démodé et soit on le jette à la poubelle, soit il reste en boule au fond d'un placard. Et ça, malheureusement, ça fait vraiment partie du business model de ces entreprises, créer cette obsolescence émotionnelle pour sans cesse donner envie d'acheter de nouveaux vêtements pour rester à la mode.
Oui, et c'est vrai que quand j'ai fait les recherches pour cet épisode, j'ai vu beaucoup de témoignages, de sondages qui montraient que beaucoup de Français sont pour cette loi, alors même que eux, ils consomment de la fast fashion parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont toujours tentés. Ils pensent pas que c'est des entreprises responsables ou que c'est bien de consommer en commandant sur ces sites, mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher et qu'ils ont très envie d'avoir souvent des nouveaux produits, même si c'est vrai que la plupart des Français disent qu'ils se considèrent comme des acheteurs responsables. C'est-à-dire que par exemple, ils commandent sur des sites de seconde main ou ils vont dans des friperies, donc c'est des magasins vintage. Et voilà, en général, on essaye, mais c'est vrai que la tentation parfois est tellement grande face à des géants qui collectent nos données et qui nous envahissent sur nos réseaux sociaux. Donc finalement, la population est plutôt pour, et même ceux qui pourrait être impacté. Certains trouvent que c'est bien quand même, un peu comme pour la cigarette. Finalement, il y avait des fumeurs qui étaient complètement pour l'augmentation des prix et les messages de prévention parce qu'ils savent que c'est mal au fond.
C'est vrai. Après, c'est encore une manière de mettre la responsabilité sur le consommateur en lui disant « voilà l'éco-score de ce produit ». On vous montre clairement que c'est mauvais pour l'environnement et si vous voulez l'acheter, c'est votre problème. Alors que bon, avec ce malus économique, faire ajouter une taxe, là je pense que ça peut être un peu plus dissuasif, comme quand on a fait augmenter le prix des paquets de cigarettes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles entre ces deux industries. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué de dire d'un côté, on veut laisser la liberté d'entreprendre, donc... On ne peut pas interdire ces entreprises, on veut laisser la liberté d'acheter, de consommer ce qu'on veut, mais de l'autre, on essaye quand même de vous dissuader, voilà, comme on peut avec ces scores, ces informations, etc. Puis il y a une dernière injustice aussi, c'est que ici, l'entreprise qui est principalement visée par cette loi, c'est Shein, donc une entreprise chinoise, alors que d'autres entreprises de fast fashion comme H&M et Zara, qui sont aussi très mauvaises pour l'environnement, eh bien, elles ne vont pas être touchées ou elles ne vont pas être impactées par cette loi. Et ce sont des entreprises européennes. Donc, on peut se dire, quand ce sont des entreprises européennes, on est plus clément, on ferme les yeux plus facilement. Mais dès qu'il s'agit d'une entreprise chinoise, là, tout de suite, on met en place des mesures protectionnistes. Donc, c'est un peu deux poids, deux mesures. On n'applique pas vraiment le même traitement à tout le monde.
C'est vrai que peut-être qu'il y a aussi des raisons économiques qui sont bien plus importantes et de lutte d'un continent contre un autre. Mais en tout cas, la loi a été approuvée. Elle va probablement être mise en place prochainement. Ça va mettre encore un peu de temps. Mais on va continuer à suivre ça et on verra quelles sont realmente.
Realmente, on passe en espagnol, voilà. Maintenant, c'est Inner Spanish pour finir cet épisode. Je pense qu'on va, on va pouvoir s'arrêter là. Ingrid commence vraiment, vraiment à
ouais,
fatiguer.
C'est bon, ça y est. On a parlé de Zara et tout, ça m'a...
Ça t'a rappelé les cours d'espagnol.
Ouais, c'est ça.
Donc, on va s'arrêter à qui. Et voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Dites-nous aussi si c'est un débat qui a lieu dans votre pays. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Peut-être que chez vous aussi, il y a des lois similaires qui sont en discussion. On est curieux de le savoir. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, il y aura des liens sur la page de l'épisode pour approfondir vos recherches. Et nous, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!
Salut!